Talmanès flanqua un coup d'épaule à un grand trolloque à gueule de sanglier équipé d'une cotte de mailles rudimentaire. Le monstre empestait. Un mélange de fumée, de fourrure mouillée et de peau crasseuse. Sous la puissance de l'assaut, il grogna de surprise. Ces créatures étaient toujours étonnées quand l'officier les attaquait. Talmanès recula et retira sa lame du flanc du trolloque, qui s'écroula aussitôt. Plongeant en avant, le militaire égorgea sa victime, sans se soucier des mains griffues qui s'accrochaient à ses jambes. Toute lueur déserta les yeux trop humains du monstre. Partout, des hommes se battaient, criaient, grognaient et tuaient. L'avenue qui menait au palais montait désormais abruptement. Des trolloques y avaient pris position, empêchant la compagnie d'atteindre son objectif. Talmanès s'affaissa contre le flanc d'un bâtiment. Celui d'à côté était en feu, illuminant la rue et dégageant une chaleur éprouvante. Mais ces incendies passaient pour une plaisanterie comparée aux souffrances que sa blessure infligeait aux militaires. La douleur se diffusait de sa hanche à son pied, et elle remontait aussi, menaçant de s'attaquer à son épaule. « Par le maudissant et les fichus cendres, je donnerais cher pour passer les heures à venir avec un bon livre et une délicieuse bouffarde, seul et tranquille. » Les gens qui s'extasiaient sur les morts glorieuses au combat étaient des crétins finis. Crever dans un océan de feu et de sang n'avait rien d'un triomphe. Une mort paisible, ça, c'était bon à prendre. Talmanès se redressa péniblement, le visage lustré de sueur. Plus bas, des trolloques se massaient derrière ses lignes arrières. Il coupait toute retraite aux bras rouges, mais il leur restait toujours l'option d'avancer en taillant en pièces les monstres de devant. Se replier serait une toute autre paire de manches. Comme dans cette rue, se battre en ville impliquait de subir sans cesse des attaques latérales venues des multiples ruelles et allées. Des escarmouches qui finissaient par coûter cher.
« Donnez tout ce que vous avez, les gars !» cria Talmanès.
Il repartit dans la rue, fondant sur les trolloques qui tentaient de la bloquer. Désormais, le palais n'était plus très loin. Avec son bouclier, Talmanès bloqua l'épée d'un trolloque à face de chèvre. Une fraction de seconde avant que la lame ait fait voler dans les airs la tête du brave Denel. Talmanès tenta de repousser en arrière l'arme du monstre, mais ses fichues créatures étaient rudement fortes. Non sans peine, le militaire empêcha celle-là de le faire basculer en arrière, juste assez longtemps pour que Denel, remis de ses émotions, la frappe aux cuisses et la force à s'écrouler. Melten suivait Talmanès comme son ombre. Fidèle à sa promesse, il était prêt à faire le travail si son chef avait soudain besoin d'une lame pour mettre fin à ses souffrances. Ensemble, les deux hommes menaient l'assaut contre la colline. Les trolloques reculèrent un peu, mais ils reprirent la formation, masse rugissante de fourrure noire, d'yeux haineux et d'armes mortelles. Tant et tant de monstres.
« En avant !» cria Talmanès. « Pour le seigneur Matt et la compagnie de la main rouge !»
Si Matt avait été là, il aurait juré d'abondance, pleurniché presque autant, puis trouvé un moyen de sauver tout le monde grâce à un miracle tactique de son cru. Incapable d'être aussi créatif que son chef en matière d'insanité et d'inspiration, Talmanès était cependant certain que ses cris stimulaient les hommes. Alors que les rangs se resserraient, Gavin déploya sa vingtaine d'arbalétriers, les derniers qu'il restait à Talmanès, sur le toit d'un bâtiment épargné par les flammes. De cette position, ils entreprirent de cribler de carreaux les trolloques. Cette manœuvre aurait sans doute eu raison d'ennemis humains, pas des monstres. Les carreaux en tuèrent pas mal, mais beaucoup moins que Talmanès l'aurait espéré.
« Un blafard les pousse à charger », pensa le militaire. « Lumière, je ne peux pas en affronter un autre, déjà que je n'aurais pas dû combattre le premier. »
Pour commencer, Talmanès n'aurait pas dû être debout. La flasque de Melten, désormais vide, avait cessé de faire effet sur la douleur. De toute façon, il aurait été dangereux d'avoir l'esprit plus embrumé. Pour oublier son piteux état, Talmanès se concentra sur l'assaut qu'il conduisait, en compagnie de Denel et Londraed. Sous leurs lames, le sang des trolloques jaillissait puis cascadait le long des pavés. La compagnie se sortait les tripes, mais l'épuisement et l'infériorité numérique les condamnaient à l'échec. Derrière les attaquants, un nouveau groupe de trolloques s'était joint aux autres. À présent, les choses étaient claires. Talmanès allait devoir affronter cette menace, en tournant le dos au monstre de devant,
ou diviser ses hommes en petites unités qui tenteraient de filer par les rues latérales, avec pour objectif un regroupement devant la porte sud. Talmanès se prépara à donner les ordres aux idoines.
« En avant, les lions blancs !»
lancèrent des voix.
« Pour Andar et la reine !»
Au sommet de la colline, des soldats en blanc et rouge venaient de faire une percée dans les rangs ennemis. Un autre détachement de piquiers andoriens jaillit d'une rue latérale, prenant à revers les trollocs qui menaçaient les arrières de Talmanès. Devant ces assauts, les monstres s'éparpillèrent dans toutes les directions. Talmanès vacilla sur ses jambes. Un instant, il dut utiliser son épée comme une canne pour ne pas tomber. Prenant le commandement, Maduin lança une contre-attaque. Ses hommes et lui firent un massacre parmi les fuyards. Plusieurs officiers en uniforme de la garde royale dévalèrent le flanc de la colline. À première vue, ils ne semblaient pas en meilleur état que les Bras Rouges. Gibbon était à leur tête.
« Mercenaire, dit-il à Talmanès, je te remercie d'être intervenu. Tu parles comme si nous vous avions sauvés. De mon point de vue, c'est tout le contraire. »
Gibbon fit la grimace.
« Grâce à vous, nous avons obtenu un répit. Ces trollocs attaquaient les portes du palais. Désolé d'avoir mis si longtemps à faire la jonction. Au début, nous n'avons pas compris pourquoi les monstres rebroussaient chemin.
Le palais a tenu?
Oui, mais il est plein de réfugiés.
Et les femmes capables de canaliser?
Demanda Talmanès, plein d'espoir.
Pourquoi la reine n'est-elle pas revenue avec l'armée andorienne?
Les suppôts,
soupira Gibbon.
Sa majesté a emmené presque toutes les femmes de la famille. Les plus puissantes, en tout cas. Elle nous en a laissé quatre assez fortes pour ouvrir un portail en s'unissant. Mais un archer en a abattu deux sans que les autres puissent intervenir. Seules, les survivantes ne peuvent pas appeler au secours via un portail. Pour l'heure, elles se rabattent sur la guérison.
« Par le sang et les cendres !»
jura Talmanès. En même temps, une étincelle d'espoir se ralluma en lui. Ces deux femmes ne pouvaient pas ouvrir un portail, certes, mais guérir sa blessure.
« Dis bon, tu devrais conduire tes réfugiés hors de la ville. Mes hommes tiennent la porte du sud. »«
Bonne nouvelle !»
fit Gibbon, tout requinqué.
« Mais il te reviendra de guider ces pauvres gens. Moi, je dois défendre le palais. »
Talmanès arqua un sourcil. Depuis quand recevait-il des ordres de Gibbon? La compagnie disposait de sa propre chaîne de commandement, et elle n'avait de compte à rendre qu'à la reine. En signant le contrat, Matt avait bien précisé ces deux points. Hélas, Gibbon n'avait pas davantage d'ordres à recevoir de Talmanès. Le militaire prit une grande inspiration, puis il tituba. De justesse, Melten le retint par un bras. Quel calvaire, cette blessure! Ce maudit flanc ne pouvait-il pas s'engourdir comme il aurait été convenable? Par le sang et les cendres! Talmanès devait aller voir les deux femmes.
Ces deux membres de la famille qui savent guérir,
souffla-t-il.
Je les ai envoyés chercher,
dit Gibbon,
dès que j'ai vu ton groupe dans la rue.
Eh bien, c'était déjà ça de prix.
J'ai l'intention de rester ici,
annonça Gibbon.
Pas question d'abandonner cette position.
Pourquoi? La ville est perdue, mon gars.
La reine nous a ordonné de lui expédier régulièrement des rapports via les portails. Sans nouvelles de nous, elle ne tardera pas à se poser des questions. Pour savoir ce qui se passe, elle enverra une femme de la famille qui arrivera sur le site de voyage du palais. C'est...
Seigneur!
Cria soudain une voix.
Seigneur Talmanès!
Gibbon remit ses explications à plus tard. Dans le dos de Talmanès, un des éclaireurs de la compagnie, nommé Filger, gravissait péniblement les pavés rouges de sang. Très mince, ce type aux cheveux de plus en plus rares arborait en permanence une barbe de 3 jours. Le voir ici glaça les sangs de Talmanès. Filger comptait parmi les hommes chargés de défendre la porte sud.
« Seigneur !»
dit-il à bout de souffle.
« Les trollocs ont conquis les fortifications. Massés sur les remparts, ils criblent de flèches ou de lances quiconque essaie d'approcher. Le lieutenant Sandip m'envoie de prévenir. Malédiction. Et la porte sud?
Nous la tenons, seigneur. Pour l'instant.
Talmanès se tourna vers Gibbon.
Fais montre de compréhension, mon gars. Il faut que quelqu'un défende cette porte. Je t'en prie, tire les réfugiés de là et va soutenir mes hommes. Cette issue sera notre unique chance de sortir de Camlin en un seul morceau. Mais le messager qu'enverra la reine, dès qu'elle aura idée de jeter un coup d'œil ici, la reine saura ce qui se passe. Regarde-toi, Gibbon. Dans ton état, essayer de défendre le palais est de la folie. Cette cité n'est plus qu'un bûcher funéraire.
En proie à un dilemme, Gibbon tenta de peser le pour et le contre.
Tu sais que j'ai raison,
dit Talmanès, les traits tordus par la douleur.
Le mieux que tu aies à faire, c'est d'aller prêter main forte à mes gars devant la porte sud, qui te sera utile pour évacuer la ville.
C'est possible,
marmonna Gibbon.
et laisser brûler le palais. Au moins ce sacrifice sera utile. Et si tu chargeais quelques hommes de défendre le palais, ces braves feront diversion, évitant que les monstres s'intéressent aux citadins qui tentent de s'enfuir. Et quand ils seront prêts de céder, ils fileront par les jardins à l'arrière du palais, puis ils rejoindront la porte sud en le contournant.
Un bon plan, reconnut Gibbon de mauvaise grâce.
Je le suivrai. Mais toi, que vas-tu faire?
Il faut que je récupère les dragons. Pas question de les abandonner aux ténèbres. Ils sont dans un entrepôt, à la lisière de la cité intérieure. La reine insistait pour qu'ils soient cachés le plus loin possible des compagnies de mercenaires. Je dois les retrouver, si possible pour les emporter, sinon pour les détruire.
Très bien,
fit Gibbon, excédé de devoir accepter l'inévitable.
Mes hommes agiront selon tes suggestions. Une moitié aidera les fugitifs, puis renforcera les défenses de la porte. L'autre tiendra le palais quelques heures de plus, puis elle battra en retraite. Mais moi, je t'accompagne.
Avons-nous vraiment besoin de tant de lampes ?
Demanda Aes Sedai assise sur un tabouret au fond de la pièce. À son maintien, elle aurait tout aussi bien pu siéger sur un trône.
Pensez au gaspillage d'huile.
Nous avons besoin des lampes,
grogna Androl. Une pluie nocturne martelait la fenêtre, mais il l'ignorait, luttant pour se concentrer sur le morceau de cuir qu'il cousait. Un jour, le produit fini serait une selle. Pour l'heure, il travaillait sur le harnais ventral de l'équidé. Perçant le cuir d'une double rangée de trous, il laissa le travail le calmer. Le poinçon qu'il utilisait faisait des trous en forme de diamant. Pour aller plus vite, il aurait pu taper dessus avec un maillet, mais ce soir, il se régalait de sentir le cuir céder sous la pression de sa main. Avec sa roulette graduée, il détermina la position des trous suivants, puis commença à les percer. Pour ce genre d'objet, il fallait que les parties plates des diamants soient alignées les unes en direction des autres. Ainsi, quand le cuir subissait une traction, quant aux coutures de toute première qualité, elles contribueraient à conserver la selle en bon état pendant des années. Bien sûr, les rangées de trous devaient être assez proches pour se renforcer mutuellement, mais pas au point de se déchirer ensemble. Évidemment, échelonner avec précision les orifices était d'une aide précieuse. Les petits détails, toujours. Il suffisait de leur prêter attention pour... Ses doigts ayant glissé, Androl perça un trou orienté dans le mauvais sens. Une erreur inacceptable. De rage, il faillit jeter son œuvre en travers de la pièce. C'était sa cinquième bévue ce soir. Pour se calmer, il posa les paumes à plat sur son établi.
Lumière, qu'est-il arrivé à mon équanimité légendaire ?
À cette question, il ne fallait pas être grand clair pour répondre.
La tour noire, voilà ce qui est arrivé.
Ici, il se sentait comme un Hachi multipathe piégé dans une flaque laissée par la marée. Alors qu'il attendait désespérément le retour de l'eau, des enfants écumaient la plage, jetant dans leur seau tout ce qui paraissait comestible. Après une profonde inspiration, Androl reprit le harnais. Ce serait la plus mauvaise pièce qu'il aurait créée depuis des années, mais il la finirait coûte que coûte. Laisser un travail inachevé était presque aussi grave que de négliger les petits détails.
« Bizarre, »
dit Aes Sedai. Membre de l'âge à rouge, elle se nommait Pevara. Sur sa nuque, il sentait peser son regard.
Une sœur rouge.
Eh bien, partager une destination réunissait souvent des voyageurs disparates, comme le soulignait un proverbe théarien. Mais il y en avait un autre, au Saldaea, qu'il ne fallait pas négliger non plus. Si l'épée de ton ennemi est sur sa propre gorge, ne perds pas ton temps à te souvenir du corps où elle faisait pression sur la tienne.
Tu me parlais de ta vie avant ta venue à la tour,
rappela Pevara.
Tu es sûr ? Moi, ça m'étonnerait.
Androl commença à coudre le cuir.
Pourquoi prétends-tu ça ? Ou plutôt, que veux-tu savoir ?
Je suis curieuse, c'est tout. Fais-tu partie de ceux qui sont venus ici volontairement pour être mis à l'épreuve ? Ou des hommes qui ont été recrutés aux quatre coins du continent ?
Androl tira fermement sur son aiguille.
Je suis venu de mon plein gré. Sauf erreur de ma part, Evin te l'a dit hier, quand tu l'as cuisiné à mon propos.
Eh bien, on me surveille à ce que je vois.
Androl leva les yeux sur la sœur.
C'est quelque chose qu'on t'enseigne ?
Demanda-t-il.
Quoi ?
Demanda innocemment Pevara.
L'art de détourner une conversation. Entends-toi m'accuser de t'espionner, alors que c'est toi qui as interrogé mes amis à mon sujet.
J'aime savoir ce que valent exactement mes alliés.
Tu veux surtout découvrir pourquoi un homme choisit de venir à la Tour Noire afin d'apprendre à canaliser le pouvoir. »
Pevara ne répliqua pas tout de suite. Androl devina qu'elle cherchait une réponse qui ne violerait pas un des trois serments. Parler avec une Aes Sedai était aussi simple que de suivre un serpent vert qui rampe dans une herbe tout aussi verte.
« C'est ça, oui, »
concéda Pevara. Androl en silla de surprise.
« Oui, je désire le savoir, »
continua Pevara.
« Qu'on le veuille ou non, nous sommes alliés. Je tiens à connaître la personne dont je partage la couche. C'est une image, bien entendu. »
Androl inspira à fond pour se calmer. Dialoguer avec une Aes Sedai, il détestait ça, car ces femmes embrouillaient tout. Si on ajoutait sa peur du noir et ses démêlés avec la fichue selle. Mais il ne s'énerverait pas.
« Nous devrions nous entraîner à former un cercle, » dit Pevara. « Contre les hommes de Taïm, ça nous conférerait un avantage. Petit, je m'empresse de le préciser. »
Androl oublia l'antipathie que lui inspirait la sœur. Pour l'heure, il avait d'autres soucis, et s'efforça de réfléchir objectivement.
« Un cercle ?
Tu ne sais pas ce que c'est ?
J'ai peur que non. »
Pevara fit la moue.
« Parfois, j'oublie à quel point vous êtes tous ignorants. »
Elle se tut, comme si elle prenait conscience d'en avoir trop dit.
« L'ignorance est inévitable, Aes Sedai. Le sujet de cette ignorance peut changer selon les personnes, mais le monde est ainsi fait, trop complexe pour qu'un seul être sache tout. »
Apparemment, ce n'était pas la réponse qu'attendait Pevara. Le regard dur, elle étudia Androl. Comme la plupart des gens, elle n'aimait pas les hommes capables de canaliser. Mais chez elle, ça allait plus loin. Les types comme Androl, elle avait passé sa vie à les traquer.
Un cercle est généré quand des hommes et des femmes unissent leurs forces pour canaliser le pouvoir. Il y a une façon de faire très précise.
Le MAL la connaît, je suppose.
Pour faire un cercle, les hommes ont besoin des femmes. En fait, sauf dans de très rares cas, il faut qu'il y ait plus de femmes que d'hommes pour que ça fonctionne. Mais un homme et une femme peuvent se lier, ainsi qu'une femme et deux hommes, ou deux femmes et deux hommes. Ici, le plus grand cercle possible réunira trois personnes, moi et deux d'entre vous. C'est peu, mais ça nous sera utile.
« Je te trouverai deux gars avec qui t'entraîner, » dit Androl. « Parmi ceux auxquels je me fie, Nalaam est le plus fort. Et Marine est également puissant, et il n'a pas encore réalisé son potentiel. Même chose pour Janet. »
« Ce sont les meilleurs ? Tu n'en fais pas partie ?»«
Non, » répondit Androl, avant de se reconcentrer sur son ouvrage.
Dehors, il pleuvait plus fort, et un air mordant s'infiltrait sous la porte. Une des lampes de la pièce battait de l'aile, plongeant tout un coin dans la pénombre. Un secteur qu'Androl lorgnait avec méfiance.
« J'ai du mal à y croire, maître Androl, » dit Pevara. « Ils t'écoutent tous religieusement. »«
Crois ce que tu veux, Aes Sedai. Je suis le plus faible du lot, et peut-être de la Tour Noire. »
Cette révélation coupa la chic à Pevara. Se levant, Androl alla remplir la lampe défaillante. Alors qu'il se rasseyait, un grattement à la porte annonça l'arrivée de Canler et Emarine. À part être trempés jusqu'aux os, ces deux-là n'avaient aucun point commun. L'un était grand, raffiné et prudent, l'autre grincheux et bavard comme une pie. Pourtant, ils devaient s'être trouvés des intérêts communs, puisqu'on les voyait très souvent ensemble.
« Alors ?» demanda Androl.
« Ça pourrait fonctionner, »
annonça Emarine. Retirant son manteau gorgé de pluie, il le pendit à une patère près de la porte. Dessous, il portait une tenue brodée à la mode de Théar.
« Il faudrait que ce soit un orage puissant. Les gardes ne relâchent jamais leur vigilance.
« Je me sens comme un taureau primé à une foire, »
marmonna Canler. Avant de suspendre son manteau, il tapa des pieds sur le plancher pour nettoyer ses semelles.
« Partout où nous allons, les favoris de Taïm nous observent du coin de l'œil. Par le sang et les cendres, Androl, ils savent. Oui, ils sont informés que nous voulons filer.
« As-tu trouvé des failles ?»
demanda Pevara en se penchant en avant.
« Un endroit où le mur est moins surveillé ?»«
Pevara, »
intervint Emarine.
« Tout dépend des gardes affectés à un poste ou à un autre. »« Oui, je suppose que c'est normal. Ai-je mentionné un détail qui me trouble ? Celui d'entre vous qui me manifeste le plus de respect est un Théarien. »«
Pour eux, être poli avec quelqu'un n'est pas un gage de respect, Pevara Sedai, »
fit remarquer Emarine.
C'est simplement le signe d'une bonne éducation et d'un caractère égal.
Androl sourit. Et Marine était un génie en matière d'insultes. Le plus souvent, ses victimes le quittaient sans avoir conscience qu'il venait de se moquer d'elle. Pevara fit la moue.
Dans ce cas, il faudra surveiller les rotations de sentinelles. Lors du prochain orage, nous tenterons de fuir à l'endroit où se trouveront les moins vigilantes.
Les deux hommes se tournèrent vers Androl. Agacé, il constata qu'il était en train de scruter le coin le plus sombre de la pièce, près de la table. Les ombres grossissaient-elles? Tentait-il de l'atteindre?
« Je n'aime pas laisser des gars en arrière, »
dit-il en se forçant à détourner le regard du coin fatidique.
« Ici, des dizaines d'hommes et de garçons ne sont pas encore sous le contrôle de Taïm. Impossible de les emmener sans attirer l'attention. Et si nous les laissons, le risque... »
Androl ne put pas achever sa phrase. En réalité, il ne savait pas ce qui se passait. Mais les gens se modifiaient. En un clin d'œil, un allié fidèle devenait un ennemi. Sans changer d'apparence, mais en n'étant plus la même personne. C'était visible dans son regard. Androl frissonna.
Les femmes envoyées par les Aes Sedai rebelles sont toujours à l'extérieur de la tour noire,
rappela Pevara. Elle campait là depuis un moment, affirmant que le dragon réincarné leur avait promis des champions. Mais Taïm faisait la sourde oreille.
Si nous pouvons les contacter, il sera possible d'ébranler la tour noire et de sauver nos amis.
Ce sera vraiment si facile ?
Demanda Emarin.
Taïm disposera de tout un village d'otages, et beaucoup d'hommes ont leur famille avec eux.
Canler approuva du chef. Lui aussi était venu avec les siens, et il ne comptait pas les laisser en arrière.
Au-delà de ça,
dit Androl, se tournant sur son tabouret pour regarder Pevara.
Crois-tu honnêtement que les Aes Sedai pourraient l'emporter ici ?
Beaucoup d'entre elles ont des décennies, voire des siècles d'expérience.
Du combat, tu en es sûr ?
La sœur rouge ne répondit pas.
Aes Sedai, insista Androl. Ici, il y a des centaines d'hommes capables de canaliser. Et tous ont été entraînés pour devenir des armes. Sur l'histoire ou la politique, nous n'apprenons rien. Idem sur l'aptitude d'influencer les nations. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est l'art de tuer. Chaque homme et chaque garçon est poussé à ses limites pour devenir fort et se développer. En d'autres termes, être plus puissant. Afin de détruire. Et un grand nombre de ces hommes sont fous. Les sœurs peuvent-elles faire face à ça? Surtout quand tant d'amis qu'on pense fidèles, ceux que nous tentons de sauver, risquent de se ranger du côté de Taïm si les Aes Sedai essaient d'envahir la tour noire.
Tes arguments ne sont pas sans valeur,
concéda Pevara.
À la manière d'une reine,
pensa Androl, impressionné malgré lui par l'assurance de son interlocutrice.
Mais nous avons besoin d'envoyer des informations à l'extérieur.
Continua Pevara.
Un assaut massif serait peut-être une erreur, mais rester assis à ne rien faire n'est pas non plus une solution, parce que nos ennemis finiront par nous avoir tous.
Je crois aussi qu'il faut envoyer quelqu'un,
dit Emarin.
Le seigneur dragon doit être averti.
Le seigneur dragon,
ricana Canler, tout en s'asseyant sur une chaise près d'un mur.
Il nous a abandonnés, Emarin. À ses yeux, nous ne sommes rien. C'est Canler.
Coupa Androl.
Le dragon réincarné porte le monde sur ses épaules. J'ignore pourquoi il nous a laissés ici, mais j'aime à penser qu'il nous croit capable de nous débrouiller seuls.
Androl tapota le harnais, puis se leva.
La tour noire est à la croisée des chemins, et nous devons montrer notre valeur. Si nous courons dans les jupes des Aes Sedai pour être protégés, ça nous soumettra à leur autorité. Et si nous comptons sur le seigneur dragon, nous ne serons plus rien après son départ.
Aucune réconciliation avec Taïm n'est possible,
souligna Emarin.
Nous savons tous ce qu'il est en train de faire.
Androl ne regarda pas Pevara. Elle avait exposé sa façon de voir les choses. Malgré des années à s'entraîner à l'impassibilité, elle n'avait pas pu empêcher sa voix de trembler d'angoisse. 13 Myrdraal et 13 personnes capables de canaliser, unies lors d'un rite répugnant, pouvaient convertir aux ténèbres n'importe quel adepte du pouvoir de l'unique, contre sa volonté.
« Ce que fait Taïm ?»
intervint Pevara.
« C'est le mal absolu. Il ne s'agit plus d'un conflit entre des hommes qui suivent un chef et des hommes qui en servent un autre. Androl, c'est l'œuvre du ténébreux. La tour noire est tombée sous sa coupe. Tu dois voir cette réalité en face. »«
La tour noire est un rêve, »
dit Androl, les yeux rivés dans ceux de la sœur.
« Un refuge pour les hommes capables de canaliser. Un foyer. » où ils n'ont pas besoin d'avoir peur, ni de fuir, et où nul ne les hait. Je ne livrerai pas ce rêve à Taïm. Il n'en est pas question. »
Un lourd silence tomba sur la pièce, seulement troublé par le martèlement de la pluie contre les fenêtres. Et Marine acquiesça, et Conler, se levant, prit Androl par le bras.
« Tu as raison, » dit-il. « Que la lumière me brûle si tu te trompes. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes faibles et peu nombreux. »
« Et Marine, as-tu entendu parler de la révolte de Knox ?»«
Oui, c'était toute une affaire, même hors des frontières du Mourandi. »«
Fichu Mourandien !»
éructa Conler.
« Ils vous prennent le manteau sur le dos et vous rouent de coups si vous n'en donnez pas aussi vos bottes. »
Et Marine arqua un sourcil.
« Knox était très loin de Lugard, Conler, » dit Androl. « Les gens qui y vivaient ressemblaient beaucoup à des Andoriens. La révolte s'est produite il y a une dizaine d'années. »
« Des fermiers ont renversé leur seigneur, »
enchaîna et Marine.
« Dessartine le méritait,
car c'était un type détestable, en particulier avec ses inférieurs.
Mais il commandait une armée, une des plus puissantes hors de Lugard, et se comportait comme s'il avait fondé son propre petit royaume. Contre ça, le roi ne pouvait rien faire.
« Et il a été renversé ?»
s'étonna Conler.
« Par des hommes et des femmes très humbles, qui en avaient assez de sa brutalité, » dit Androl.
« À la fin, beaucoup de mercenaires qui le soutenaient étaient à nos côtés. Alors qu'il semblait si fort, son âme pourrie l'a conduit à sa chute. Ici, les choses semblent terribles, mais la plupart des hommes de Taïm ne lui sont pas fidèles. Les gens comme lui n'inspirent pas la loyauté. Ils se font plutôt des complices qui espèrent s'enrichir ou gagner du pouvoir. Nous pouvons et nous devons trouver un moyen de renverser Taïm. »
Les autres acquiescèrent, à part Pevara, qui se fendit d'une moue dubitative. Androl ne put s'empêcher de se trouver un peu idiot. Au fond de son cœur, il ne pensait pas que les autres devaient s'en remettre à lui plutôt qu'à une personne raffinée comme Emarine ou puissante comme Nala. Du coin de l'œil, il lorgna les ombres le long de la table. Elles rampaient vers lui, semblait-il. Il serra les dents. À coup sûr, elle n'oserait pas l'attaquer en présence de tant de gens. Pas vrai? Pour le consumer, elle attendrait qu'il soit seul, s'efforçant de trouver le sommeil. Les nuits le terrifiaient. Elles viennent même quand je ne canalise pas le Saïdin désormais. Que la lumière me brûle. La source a été purifiée. Je ne suis plus censé devenir dingue.
Androl saisit l'assise de son tabouret et la serra, jusqu'à ce que la terreur recule, les ombres se retirant en même temps qu'elle. L'air étonnamment guilleret, Conler annonça soudain qu'il allait leur chercher quelque chose à boire. Il fit mine de partir pour la cuisine, mais il hésita, car personne n'était censé aller et venir seul.
« Je ne cracherai pas non plus sur une infusion, »
dit Pevara avec un soupir. Elle se leva et suivit Conler. Androl se rassit pour continuer à travailler. Se tirant un siège, et Marine s'assit à côté de lui. Avec sa distinction habituelle, il le fit presque nonchalamment, comme s'il cherchait un endroit où se détendre, tout en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Mais Emarine n'était pas homme à faire les choses par hasard. Au contraire, il avait toujours une multitude de motivations.
« Tu étais impliqué dans la révolte de Knox. »
« Ai-je jamais dit ça ?»
Androl recommença à travailler sur son harnais.
« Oui, tu l'as dit, en parlant des mercenaires qui sont passés de notre côté. Notre côté, à savoir celui des rebelles. »
Androl marqua le coup. « Que la lumière me brûle. Il faut que je surveille mes propos. » Si Emarine avait remarqué, Pevara aussi.
Je traînais dans le coin, et j'ai été entraîné sans vraiment le vouloir.
Tu as un passé étrange et foisonnant, mon ami. Plus j'en apprends, et plus ça éveille ma curiosité.
En matière de passé, je ne suis pas le seul à être intéressant, seigneur Algarine de la maison Pendaloan.
Emarine eut un mouvement de recul, les yeux ronds.
Comment as-tu su?
Fanchir a un livre sur les lignées nobles de Théar.
Androl faisait allusion à un soldat qui était un érudit avant de venir à la tour.
On y trouve une étrange entrée, sur une maison dont l'histoire a été troublée par des hommes ayant un problème indicible. Le dernier en date a couvert cette lignée de honte, il y a quelque chose comme 12 ans.
Je vois. Eh bien, je suppose que tu n'es pas étonné que je sois un noble.
Un noble qui a de l'expérience avec les Aes Sedai, continua Androl. Et qui les traite avec respect malgré, ou à cause d'eux,
ce qu'elles ont fait pour sa famille. Un noble de Théar se comporter ainsi, quel prodige! Un seigneur qui ne se formalise pas de servir sous les ordres de garçons de ferme et qui sympathise avec des rebelles. Si tu me permets de le dire, mon ami, ce n'est pas une attitude répandue parmi tes pères et tes compatriotes. Je parie que ton passé est lui aussi des plus intéressants. Et Marine sourit.
Un point pour toi. Androl, au grand jeu, tu serais un champion.
Ça, je n'en jurerais pas. La dernière fois que je m'en suis mêlé, j'ai failli...
Androl n'alla pas plus loin.
Je t'écoute.
Je préfère ne pas en parler.
Androl eut le sentiment d'avoir rougi. Non, il ne s'étendrait pas sur cette époque de sa vie.
Si je me laisse aller, tout le monde croira que je suis un pire affabulateur que Nalaam.
Et Marine détourna la tête pour contempler la pluie qui malmenait la fenêtre.
Si mes souvenirs sont bons, dit-il, le succès de la rébellion de Knox fut éphémère. En 2 ans, la famille noble a repris le pouvoir, les insurgés étant bannis ou exécutés.
C'est vrai, admit Androl.
Ici, nous ferons du meilleur travail. Androl, je suis avec toi. Nous le sommes tous, les hommes d'Androl.
Non, les hommes de la Tour Noire. Je veux bien commander s'il le faut, mais il n'est pas question de moi, de toi ou de n'importe qui d'autre. C'est une affaire collective. Et je cesserai de diriger le mouvement dès le retour de Loghain. S'il revient un jour. À l'intérieur de la tour, les portails ne fonctionnent pas. Tente-t-il d'entrer, mais est-il bloqué dehors?
D'accord.
Capitula et Marine.
Alors, que faisons-nous?
Androl reprit son harnais et ses outils.
Laisse-moi 1 heure pour réfléchir.